L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et la première partie de l'EM débute avec des membres du collectif Le Temps Partagé à Quimper. Bonjour à vous, Jean-Luc et Bruno.
Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous. On prend quelques instants pour découvrir votre action. Alors le collectif Le Temps Partagé était venu à nous il y a déjà quelques temps. C'est pas notre première émission. Alors pour résumer en quelques mots, l'action se focalise sur l'accueil des réfugiés mineurs sur le territoire de Quimper, comme quoi la question de l'accueil des réfugiés ne se résume pas à Grande-Synthe ou Calais, et il est possible de faire des choses chez soi, sur son territoire. Alors Jean-Luc et Bruno, c'est peut-être le sens aussi au départ de votre engagement, au départ dans ce collectif, peut-être mieux accueillir les réfugiés mineurs qu'on voit autour de nous ?
Ouais, je crois que l'idée, c'était effectivement de faire en sorte qu'on puisse les accompagner au mieux, c'est-à-dire les accompagner, c'est leur essayer de leur redonner quelques repères, parce que n'oublions pas que pour la plupart d'entre eux, ce sont des jeunes gens qui ont traversé la mer Méditerranée, souvent dans des conditions absolument incroyables, et qu'avant de traverser la mer Méditerranée, ils ont aussi vécu des périples traumatisants, en fait, en Afrique même pour l'essentiel, mais aussi en provenance du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Donc ce sont des jeunes gens qui ont besoin de retrouver un certain nombre de repères lorsqu'ils sont ici. Et quand ils arrivent ici, bah, ils arrivent souvent avec très peu de moyens, en fait. En réalité, désarçonnés, désorientés, parfois aussi avec des troubles psychiatriques liés à leur traumatisme. Et donc, effectivement, l'investissement des bénévoles du temps partagé, c'est de faire en sorte qu'ils reprennent pied d'abord par un certain nombre d'activités et puis qu'ils retrouvent prise avec la vie, qu'ils puissent s'éduquer aussi, c'est-à-dire voilà, suivre un certain nombre de cours, qu'ils puissent retrouver le goût de la vie par le sport également, enfin bref, tout un tas d'actions qui permettent à ces jeunes gens de rebondir, si possible.
Oui, Jean-Luc, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, donc quand ils arrivent, il y a une obligation légale de la part des autorités, c'est de les mettre à l'abri, ce qu'on appelle juridiquement la mise à l'abri, par le département. Ça, en moyenne, ça dure 6 mois ou un petit peu plus. Et après, ben, ceux qui perdent leurs droits, qui ne sont pas reconnus mineurs, c'est cela que nous prenons en charge, avec des ateliers ou des commissions au sein de l'association qui s'occupe de l'hébergement, du juridique, qui s'occupe de récupérer les éléments d'état civil, qui s'occupe de tout ce qui est le parcours santé, et puis l'alphabétisation, le soutien scolaire, et puis la scolarisation. Et puis d'autres activités culturelles qui les amènent à s'ouvrir au monde dans lequel ils se trouvent, le pays qui les accueille, et les activités sportives. Activités sportives où on remarque que tous les jeunes qui se sont inscrits et qui pratiquent le plus grand nombre d'activités sportives, sont les jeunes qui sont les premiers en classe. Mmh. C'est une relation directe entre la pratique sportive et l'autonomie, la reconstruction, l'envie de se battre, de réussir, de prouver qu'on n'est pas là comme une dépense, mais qu'on est capable de montrer de quoi on est capable et d'apporter ses richesses au pays.
On va reparler du sport, justement. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ces mineurs isolés ? Donc, quel est leur parcours ? Vous l'avez un petit peu évoqué, Bruno. C'est des jeunes qui se retrouvent à la rue parce que, légalement, en fait, il y a une espèce de flou juridique, en fait.
Bah, en fait, lorsqu'ils arrivent ici, au bout d'un périple, ils sont souvent assez jeunes. Comme disait Jean-Luc à l'instant, ils peuvent bénéficier d'une aide sociale à l'enfance, en fait, à condition que leur minorité soit reconnue. Or, souvent, leur minorité est contestée par les pouvoirs publics, par la justice, et que durant cette période-là, il y a une espèce de flou hein, qu'évoquait Jean-Luc, qui peut durer de longs mois, en réalité. Et donc, il y a une partie de ces jeunes qui, en fait, sont accueillis dans un hôtel à Quimper et qui sont en réalité un petit peu livrés à eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle l'intervention des bénévoles du temps partagé, mais aussi d'autres associations, est importante en fait pour leur redonner quelques repères et surtout les faire en sorte qu'ils se sentent impliqués et pas égarés et pas totalement perdus. Et puis, il y a une autre catégorie de... Alors, ces jeunes-là hein, qui sont hébergés à l'hôtel, ils sont actuellement une cinquantaine à Quimper. Et d'autres sont accueillis dans des familles, sont hébergés, donc à peu près une trentaine aujourd'hui. Ces jeunes-là, en fait, sont des jeunes qui n'avaient plus de droits, donc qui n'avaient plus d'aide sociale, tout simplement, d'aide d'État, et qui, en fait, ont été recueillis, comme le disait Jean-Luc, par des familles du temps partagé, et pour lesquelles les bénévoles du temps partagé se sont battus pour qu'ils puissent être scolarisés en fait, dans des établissements scolaires. C'est là tout l'enjeu, en fait, hein. L'idée, la grande idée, Jean-Luc, tu me coupes si je me trompe, mais la grande idée, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là puissent être scolarisés avant qu'ils ne deviennent majeurs, pour qu'ils puissent entamer en fait, un parcours de formation qui leur servira plus tard, évidemment, dans la vie, qu'ils obtiennent des qualifications. Hein. Et on constate, d'ailleurs, comme le disait Jean-Luc, mais Jean-Luc va sans doute vous en dire un petit peu plus, sur ils sont scolarisés, ils réussissent souvent, en réalité, parce qu'ils ont ce désir de s'impliquer, de rebondir dans la vie.
Qu'est-ce que c'est une scolarité, de réussir à l'école par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, en fin de compte, quoi. C'est pas grand-chose.
Je peux raconter une anecdote. Ils ont été invités dans une école élémentaire à présenter au CM2 leur parcours. Ils étaient interviewés. Il y a un jeune, à un moment, qui fait la remarque aux élèves en disant... Vous pleurez quelquefois lundi matin pour aller à l'école. Nous, on pleure exactement pour l'inverse. Parce qu'on ne peut pas y aller, on voudrait y aller. Et en fait, ils sont tellement heureux d'apprendre, de recevoir, de grandir, de se former, de se doter. Et c'est très important pour eux. Après, il faut qu'ils acquièrent aussi une autonomie qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils sont enfants, adolescents, ils sont en carence éducative. Et ils vont arriver à 18 ans, ils vont être majeurs. Et là, ils peuvent être broyés ou écrasés s'ils n'ont pas acquis les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire sociaux, comportementaux, qui vont leur permettre d'utiliser justement leur diplôme, leur formation et tout ce qu'ils auront acquis en temps et lieu voulu pour s'en sortir. Et ceux-là, ils devront avoir plus d'autonomie même que les jeunes qui sont nés ici, au même âge, qui sont accompagnés plus longtemps et qui ont plus de souplesse autour d'eux. Alors que là, il faut que nous, justement, grâce aux activités sportives, on leur apprenne ces choses-là. Se reconstruire, être autonome, savoir comment réagir, etc.
Alors aujourd'hui, vous vous occupez d'une cinquantaine de réfugiés, c'est ça, à peu près?
Alors aujourd'hui, le nombre de jeunes pris en charge depuis la création, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est un peu plus de 60. Le nombre des jeunes reconnus mineurs et qui sont repris par un système normal qui reconnaît leurs droits en tant que mineurs, c'est une quinzaine. Ceux qui sont hébergés par nous là, en septembre, c'était 38, actuellement c'est un petit peu moins. Le nombre de jeunes scolarisés en septembre est de 38, donc c'est du 100%. Tout ce qu'on prend en charge, c'est prioritaire, la formation. Voilà, avec des résultats intéressants, le nombre de jeunes ayant passé un examen en juin 2019 ayant été pris en charge par le temps partagé, c'est 12%, c'est 12 sur 12 jeunes concernés. On en a 3, c'est-à-dire sur 3 qui ont été titulaires du certificat de formation générale. C'est du 100%, 66% pour... Le brevet et le CAP, c'est du 100%.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, le sport contribue, entre guillemets, à mieux vivre, tout simplement, parce qu'on imagine que tout ce qu'ils ont traversé, à un moment donné, ça casse, j'imagine. C'est aussi une des premières missions du sport.
La première chose qu'on constate, c'est que très rapidement, ils retrouvent l'appétit, le sommeil, le sourire, l'envie de se battre. Ça, c'est clair. Et c'est très frappant. On a des jeunes qui sont passés d'un état d'une torpeur et d'une tristesse absolue. La déprime et tout, qui ne voulaient pas sortir de leur chambre, à des jeunes sans moteur et qui veulent participer aux réunions des adultes pour proposer des choses.
Ça crée des déclics ?
Ça crée d'énormes déclics. Seulement, nous, on en est convaincus, mais tout le monde n'en est pas convaincu, à commencer chez nous. Donc, et autour de nous, les
institutions... Au sein de l'association ?
Oui, parce que la confiance sportive n'est pas innée et parce que les gens ont des priorités, etc. Il faut comprendre. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Donc nous, notre bagarre, c'est d'essayer de convaincre par tous les moyens. Informer, communiquer, montrer, amener les gens sur le terrain. Et là, on a le projet justement de faire une étude pluridisciplinaire et plus scientifique avec des spécialistes pour essayer de démontrer la corrélation positive qu'il existe entre, d'une part, une pratique régulière d'activités sportives diversifiées, complémentaires et adaptées à chaque jeune, d'une part, et d'autre part, les progrès, les bénéfices, les résultats remarquables constatés en termes de reconstruction, d'autonomie, d'inclusion, de réussite scolaire, ça c'est clair, et aussi de réussite de parcours social. Et là, il faudrait un suivi, évidemment, sur plusieurs années avec des jeunes qui soient d'accord pour ça.
Vous avez quand même votre petite idée sur le fait que la pratique du sport peut aider à la réussite scolaire. J'imagine que vous avez...
Pour nous, c'est flagrant. On le voit, on le mesure, nous. Mais est-ce qu'on est crédible ? Ça, c'est autre chose quand on le dit. Voilà. Et puis, c'est...
Ça s'explique comment ?
Il y a un trop petit nombre de jeunes qui sont concernés parce qu'on n'arrive pas à les inscrire. Il y a une grosse difficulté, justement, de méconnaissance de ces phénomènes. On essaie de le dire, c'est pour... Le but, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de jeunes qui participent aux activités sportives. Et pour ça, il faut communiquer.
Et puis, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, justement, de leur proposer du sport, c'est aussi de faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer à la vie de tous les jours, à notre vie de tous les jours, en rencontrant d'autres acteurs de cette vie de tous les jours. Et donc, l'association a tissé un certain nombre de partenariats avec des clubs, avec des associations sportives qui permettent à ces jeunes soit d'entrer en contact directement avec des sportifs, y compris professionnels, je pense au Quimper Volley, hein, par exemple, et par ailleurs de se former aussi au volley en suivant, en s'intégrant à des temps d'entraînement. Ça, c'est vrai pour le volley, c'est aussi vrai pour le vélo avec l'association Carnavélo, hein, puisque dans l'association Carnavélo, il y a ce qu'on appelle une vélo-école qui permet à tout un chacun d'apprendre ou de réapprendre à faire du vélo. Et il a été décidé, donc il y a 2 ans, d'ouvrir aussi des sessions de cette vélo-école à l'intention des jeunes migrants, de sorte qu'ils puissent, eux aussi, retrouver des repères avec le vélo en ville, particulièrement, hein, parce que certains ont des cartes de bus pour se déplacer, d'autres pas nécessairement, et donc ils ont besoin aussi de pouvoir se mouvoir, se déplacer. Et donc il y a cette session école qui leur a été consacrée dans un lien, voilà, entre l'association Le Temps Partagé et puis Carnavélo. Moi, je me souviens, pour autre anecdote, lorsque je suis entré dans l'association, je me souviens d'une anecdote que m'a rapportée Jean-Luc à propos du rapport de ces jeunes migrants, en exil, avec l'eau, avec la mer.
Ah bah, ils ont traversé la mer. On imagine qu'il est un peu traumatisant, ce lien avec l'eau.
Et l'une des idées, justement, l'une des belles idées, je trouve, hein, des bénévoles de l'association Du Temps Partagé dès le début, ça a été de faire en sorte que ces jeunes gens puissent reprendre confiance avec l'eau, avec la mer. Et donc, il a été décidé de tisser des liens avec la piscine Aquacap dans le Cap Sizun pour faire en sorte que ces jeunes puissent réapprendre, en fait, puissent se réapproprier l'élément eau. Plus récemment, un lien a été tissé avec une association qui pratique la pirogue tahitienne à Combris-de-Sainte-Marine. Même chose, en fait, des jeunes en exil sont embarqués dans ces pirogues avec des bénévoles de l'association, avec des bénévoles du club, avec qui le souhaitent, et on part comme ça, naviguer un petit peu au large. Et ces jeunes-là sont directement en contact avec l'élément eau, et on constate au fil du temps qu'ils retrouvent le goût, en fait, de l'eau, qui, la plupart du temps, d'ailleurs, leur était familier, avant même qu'ils n'embarquent pour ce périple incertain entre l'Afrique et puis l'Europe.
J'imagine aussi qu'il y a de très belles balades à faire en vélo du côté du Finistère Sud aussi. Ça doit être un bon prétexte aussi pour connaître son environnement proche dans lequel on habite désormais.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a un professeur de sciences qui a posé la question dans sa classe. Enfin, deux questions au sujet de la ENEC, ce qu'il a inventé et puis sa devise personnelle. La première question, en classe de seconde, il y a trois doigts qui se sont levés, il n'y en a qu'un qui a répondu juste. Et la deuxième question, il y a qu'un qui a répondu juste, et chaque fois c'était le même, c'était un mineur isolé. Quand le professeur lui a demandé comment tu l'as appris, il a dit, c'est avec le temps partagé, en sortant en vélo, en visitant la ville. C'est une anecdote, mais qui est révélatrice de plein de choses.
Et vous allez un petit peu plus loin dans le Finistère Sud, je sais pas, il y a très côté de Bénodet, il y a pas des beaux sentiers à visiter.
Oh, même au-delà, Jean-Luc embarque assez régulièrement en fait des jeunes gens du côté du Cap Sizun, du côté du Pays Bigoudin, du côté du centre Finistère également, autour de Quimper bien évidemment.
On fait une formation vélo en fait qui comprend la partie pratique, la partie théorique en milieu protégé. Quand ils maîtrisent, on sort, on s'immerge dans la circulation pour apprendre purement la circulation en ville, hein, toutes les configurations routières. Et puis au-delà, après, c'est le vélo pour découvrir. Donc on fait le centre-ville avec une découverte guidée. Puis après, on fait du VTT en forêt, on fait du VTT à la boucle de la Pointe du Vent. Puis on fait une randonnée à la journée entre Quimper et la plage de Carvel ou de Tréboul avec 25 jeunes et puis... un peu plus d'adultes, donc ça fait beaucoup de monde, avec des enfants, des familles qui viennent, des spécialistes qui nous entourent, qui viennent spontanément nous aider, sachant ce qu'on fait, et nous on apprécie beaucoup ce soutien solidaire et citoyen.
Ouais, le vélo, il n'y a pas à dire, c'est un super outil pédagogique pour faire ne serait-ce que du code de la route avec des jeunes, et puis peut-être après de l'environnement, peut-être déclencher des consciences environnementales aussi, pourquoi pas.
Il y a toutes les disciplines impliquées dans le vélo, toutes.
Ouais.
Et puis c'est vraiment un prétexte à créer du lien aussi, hein. Quand on évoque cette sortie annuelle en lien avec Carnavelo, justement, ce cortège là de jeunes migrants, de familles, qui va vers la mer en empruntant la voie verte Quimper-Douarnenez, puis en bifurquant, mais il y a cette idée effectivement de créer des contacts, de créer du lien, de faire en sorte que ces jeunes-là se sentent inclus, intégrés le plus possible en fait dans la société dans laquelle on vit.
C'est très convivial et tous les jeunes qu'on côtoie tous les jours me disent ça, on l'oubliera jamais. Ça les marque à vie. Ils ont envie de revenir.
Alors, vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais à Quimper, il y a un truc quand même quand on parle du sport, c'est qu'il y a beaucoup de clubs pro. Est-ce qu'il y a des partenariats qui se tissent avec le sport pro sur Quimper? Est-ce que ça a un intérêt peut-être aussi, finalement, pédagogique, quoi, de voir des pros évoluer?
Oui, il y a une joueuse de Ligue A en Quimper Volley qui s'est présentée aux jeunes en disant « Mon parcours, c'est le vôtre. Accrochez-vous. » Et en fait, on propose des créneaux, le club propose des créneaux. La difficulté qu'on a, c'est à recruter les jeunes au départ. Et là, on a un gros souci pour essayer de motiver à la fois les bénévoles, les hébergeurs et les jeunes eux-mêmes. Mais ceux qui participent progressent, ont la capacité d'évoluer. Donc c'est très inclusif parce que c'est la mixité. Avec les jeunes du CRU, ils ont la possibilité d'évoluer au même titre. Donc ça, c'est bien. Et l'UJAB veut faire pareil avec le badminton. Ça va s'ouvrir bientôt. Donc il y aura d'abord... un entraînement, une évaluation, et puis la licence, et puis progresser. Voilà. Après, il y a aussi le fait que ces jeunes ne savent pas combien de temps ils vont rester aussi. C'est des parcours qui sont très particuliers en fonction de chacun.
Il y a deux aspects, en fait. Pardon, je coupe. Il y a deux aspects. Il y a la pratique du sport, telle qu'ils peuvent la vivre, effectivement, grâce à l'implication de bénévoles de ces clubs-là. Et puis, il y a aussi le simple fait d'aller assister à des matchs. Que ce soit des matchs professionnels de volley ou des matchs professionnels de badminton, puisque l'équipe de l'UJAP Quimper a évolué en National 3. Et donc, par exemple, les jeunes sont allés assister récemment, là, cet hiver, à deux matchs de National 3. Et je crois que pour eux, c'est... on a pu le vérifier. C'est un centre d'intérêt énorme. Et puis, comme chaque enfant, après tout, qui est intéressé par le sport, ils peuvent aussi s'identifier à un jeune joueur de badminton ou à une jeune joueuse de badminton qui réalisent des performances devant eux et avec lesquelles ils peuvent discuter à la fin du match aussi, ils peuvent échanger à la fin du match.
J'ai une question bête, elle va paraître sans doute très bête, mais on a tendance, là, on imagine beaucoup de gars, de mineurs isolés, quoi. Est-ce qu'il y a des filles aussi qui se retrouvent dans ces situations-là ? Est-ce
que vous, alors oui, mais au niveau de la préfecture, il a été décidé administrativement de diriger les filles vers Brest et les garçons vers Quimper. À ma connaissance, ça explique pourquoi on n'a que des gars ici.
D'accord. C'est une question qui m'a traversé l'esprit comme ça. Je me posais la question. Et pour toutes ces activités, là, ça peut paraître super naturel pour un gamin qui a grandi en France, mais pour tous ces jeunes, là, c'est tout le temps des découvertes ?
Alors, la plupart du temps, oui, parce qu'en réalité, ce sont des sports auxquels ils ont rarement été confrontés dans leur vie antérieure. Alors, à l'exception de quelques-uns. Là, par exemple, à propos du badminton, il y avait quelques jeunes gens qui venaient ou du Bangladesh ou du Pakistan. Donc, eux, pour eux, ce sont des sports qu'ils ont d'ailleurs pratiqués, hein, pour la plupart d'entre eux, et qui, évidemment...
Il faudra leur proposer du cricket.
Les attire. Plus difficile de ça. Trouver un club de cricket dans la région. Mais oui, donc il y a... Voilà, il y a à la fois la possibilité pour eux de retrouver un sport qu'ils ont déjà pratiqué et auquel ils s'identifient assez facilement. Mais quand même, la plupart du temps, ça constitue... Enfin, les activités sportives qu'on peut leur proposer constituent une forme de découverte, voire carrément une découverte, en fait. Ouais.
Parce qu'en termes d'historique, temps partagé, je crois, est sur sa deuxième ou troisième année ?
Il attaque sa troisième année.
Ouais. Et donc vous commencez peut-être à avoir un petit recul un petit peu, où vous voyez les jeunes grandir, forcément, à un moment donné, ils atteignent la majorité, vous gardez contact avec eux vous...
Certains désirent rester en contact avec nous, d'autres disparaissent et sans contact. Tous les cas de figure existent, mais il y en a qui aiment rester en contact avec nous.
Et l'aboutissement pour vous, enfin, en tant que bénévole, là où finalement vous vous dites « là j'ai réussi mon truc », ou « j'ai réussi mon investissement bénévole ».
C'est surtout, oui, c'est surtout de se dire, pourvu qu'ils aient la capacité de reprendre confiance, pourvu qu'ils aient la capacité de rebondir, pourvu qu'ils puissent faire leur vie, ici ou ailleurs, mais qu'ils aient cette chance-là, cette capacité, en fait, à avancer dans la vie avec un bagage, avec un minimum de bagage, comme le soulignait Jean-Luc, un bagage éducatif, mais aussi un bagage de savoir-faire, de savoir-être.
Pour bref. Utiliser tous ces bagages, en fait. Parce que fera le jeune, s'il est, en supposant qu'il soit très bien doté, s'il n'a pas les moyens de s'en servir ? Et c'est grâce au sport qu'il peut s'en servir. Et c'est le sport qui relie et qui orchestre les connaissances qu'il a.
Moi, j'avais une autre question de fond par rapport aussi à votre investissement bénévole. À un moment donné, vous espérez arrêter quelque part, que vous n'ayez plus à le faire, ce que vous faites là ?
Ben, disons que la situation serait tout à fait normalisée, on va dire, dans ces cas-là.
Et ce serait plutôt pas mal. Oui. Ça voudrait dire qu'il y ait eu une autre prise en charge.
C'est ça.
Absolument. Qu'il y ait un relais officiel qui soit...
Il faut espérer qu'un jour on en trouve le chemin, mais pour l'instant, ça se complique.
Et puis, il faut pouvoir espérer aussi qu'une partie de ces jeunes-là qui ne sont pas encore ici, mais puissent trouver des réponses dans leur propre pays, qu'ils puissent eux aussi trouver des ressources, progresser, grandir, trouver leur marque, faire leur vie, en fait. C'est aussi une des réponses à la question, en fait, finalement. Mais c'est sans doute un monde idéal, quoi.
Voilà, on le rappelle, Bruno et Jean-Luc, vous êtes bénévoles au collectif et l'association Le Temps Partagé, basée à Quimper. Peut-être une question sur le bénévolat et la commission sport. Vous êtes combien, là ?
On est trois et peut-être bientôt quatre, puisque j'ai appris hier qu'il y a un bénévole qui s'est présenté pour venir nous rejoindre.
Il y a un profil type du bénévole que vous recherchez pour votre commission sport ?
Toutes les personnes sont intéressantes et chacun a quelque chose à apporter.
Voilà, bah, le message est passé.
Nous-mêmes avons des profils extrêmement...
On manque de bras en fait. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus, quels que soient les postes.
Et ben voilà, un message passé. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup
pour votre accueil.
L'émission.